Vous écoutez
RMC.
Le derby de Manchester hier, chez toi donc, remporté par City 3-1. Rashford avait ouvert le score sur un but splendide, puis Foden a frappé. Foden a surgi, doublé en 25 minutes pour renverser United. Le premier but est exceptionnel, le deuxième est clinique. On a beaucoup de messages déjà au début de l'émission. Il faut parler absolument de Phil Foden. C'est sa meilleure saison, incontestablement, mon cher Julien, à l'âge de 23 ans.
Ouais, 17 buts maintenant, toutes compétitions confondues.
Aucun penalty.
Il en est à 11 en championnat déjà, et 6 ou 7 passes décisives, je crois. Il a pris une dimension assez extraordinaire. Il a 23 ans seulement. Et en plus, je pense qu'il joue même pas à son meilleur poste, parce que depuis le retour de De Bruyne, il est forcément un petit peu moins dans l'axe qu'il était pendant l'absence de De Bruyne, où il a aussi été exceptionnel dans l'axe. Pour moi, c'est plus encore un joueur de l'axe qu'un joueur un peu sur un côté. Hier, finalement, le premier but, il est là parce qu'il rentre sur son pied gauche vers l'axe, et le deuxième, il l'inscrit, il est beaucoup plus dans l'axe que sur un côté, après avoir switché un petit peu avec Bernardo Silva. C'est un talent extraordinaire, mais ça, on le savait, hein, depuis qu'il avait, il a rejoint le centre de formation à 6 ans, je crois, à Manchester City. Depuis qu'il a 15-16 ans, on savait très bien qu'il était extraordinaire. Mais de le voir jouer comme ça, de voir Pep Guardiola qui, ébloui encore par un jeune talent comme ça, alors qu'il en a, il en a vu beaucoup quand même dans sa carrière.
Oui.
De voir ce qu'il fait,
dont
Iniesta, de voir ce qu'il fait en première ligue, dans une équipe forcément qui est exceptionnelle, peut-être la meilleure équipe de l'histoire de la première ligue et une des meilleures de l'histoire du football anglais dans son ensemble. Mais voilà, c'était très beau à voir. Le premier but, tu le dis. Alors, il est un peu facilité par le fait que Lindelof, sans que je comprenne trop pourquoi, le laisse entrer sur son pied gauche à l'intérieur, mais la frappe est magnifique. Le deuxième, c'est un 1-2 avec Alvarez, mais il va tellement vite, il pense tellement vite, il voit le jeu avant tout le monde. C'est beau à voir. Et dans un match où, qui était mal engagé pour City, puisque United a marqué d'entrée, un but, exceptionnel de Rashford, une frappe de 25 mètres pleine lucarne, fantastique, sur un ballon dégagé par Onana qu'on laisse rebondir du côté de Manchester City, ce que encore une fois j'ai beaucoup de mal à comprendre. Dès que tu commences à jouer au foot, peu importe ton âge, on t'apprend à jamais laisser rebondir un ballon comme ça sur un dégagement, que ce soit un 6 mètres ou un dégagement du gardien, un coup franc, n'importe quoi. Ils avaient d'ailleurs concédé un but comme ça à Brentford au mois de janvier, pareil, sur un dégagement 6 mètres de Flecken qui laisse rebondir et Mopé va marquer un contre un gardien. Là c'est un petit peu différent, mais l'erreur est similaire. Mais après, on a vu des déferlantes, vague après vague, de Manchester City contre une équipe de United qui était très limitée à cause des blessures. Mais quand tu, finalement, tactiquement, ton plan, c'est de défendre pendant 90 minutes, comme l'a fait United, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je sais qu'il n'y avait peut-être pas d'autre option, mais j'ai un petit peu de mal. Le 4-6-0 ou le 6-4-0 par moment, tactiquement, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, voilà, c'était peut-être la seule chose que Ten Hag pouvait faire. Et au final, ils sont à 10 minutes de, ou 15 minutes de faire match nul. Et au final, ils perdent 3-1. Ils auraient aussi pu perdre 6-1 parce que Haaland manque de grosses occasions, Foden aussi. Et au final, il y a, entre les deux équipes, il y a un gouffre. Ce qu'on savait avant, mais voilà, j'étais quand même un petit peu déçu par la tactique assez trop défensive, selon moi, de Manchester United.
Il était un sixième de Première Ligue à 11 points de la Ligue des Champions. Déjà, je veux qu'on parle de Foden avec vous aussi, votre regard sur ce joueur-là, son évolution. On parle aussi d'un joueur qui fait un gros travail défensif, mon cher Julien, incarnation d'un joueur collectif aussi, au-delà d'être décisif. Hein. Tu parlais des passes décisives, c'est 10 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, plus ses 17 ou 18 buts en 40 matchs déjà disputés. C'est marrant, il a 23 ans, il a que 23 ans. Ça fait très longtemps qu'on le voit.
C'est un nom qu'on connaît tellement depuis longtemps. T'as raison, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est.
Eh ben oui. Alors, il lui manque une référence peut-être avec l'équipe nationale anglaise aussi. Il n'est pas encore installé avec la sélection, mon cher Julien.
C'est pas gagné.
Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas gagné à cause du Sylvain Ripoll anglais, bien sûr. Moi, ça, on l'avait déjà dit. Hein. Le Sylvain Ripoll anglais.
Non, mais là, il n'aura pas le choix, là. C'est dans le 11 maintenant.
On m'a invité à un déjeuner avec lui au mois de mai, avec le Sylvain Ripoll anglais, et c'est moi qui suis là pour lui poser des questions sur la scène. Donc je pense que ça va être assez cocasse, puisqu'il sait que je l'aime
trop. Ouais,
ça va être sympa, je vous raconterai.
Ah bah non, mais là, tout ça. Il sait ou pas? Il sait ce que tu penses de lui ou pas?
Oui, je pense qu'il sait. Mais il est tellement gentil que. Mais en plus, j'ai rien contre la personne, hein, vous savez.
Non,
c'est juste tactiquement, j'ai du mal avec le conservatisme.
J'adore.
Non, mais il est très gentil. Mais voilà, c'est marrant. Voilà. Mais
je sais pas s'il connaît Sylvain Ripoll en revanche. On va lui demander.
Non, ou alors il a eu la référence.
Moi, je l'avais rencontré une fois à Valdebebas où il était venu visiter le son d'entrant du Real. Il avait été absolument charmant.
C'est un homme très poli.
Ouais, ben il a pas retenu grand chose du football espagnol, en fait, hein, je te confirme ça.
Ah, ben ça.
Bref, sérieusement.
Sur Foden.
Non, mais juste pour. Quand tu vois Foden, la dimension qu'il a prise. Mais je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé avant. Harry Kane. Dans la forme. Ouais, je pense que même à Tottenham, il avait jamais marqué autant de buts en si peu de matchs. Bellingham. un des trois meilleurs joueurs du monde actuellement. Bukayo Saka, extraordinaire avec Arsenal cette saison. Et la liste peut continuer. Alors d'accord, défensivement, dans les défenseurs centraux, il y a peut-être quelques soucis, surtout si Stone se blesse, tant qu'il n'amène pas Harry Maguire, ça me va. Mais quand tu vois le talent qu'il va avoir à sa disposition cet été, avec en plus un Foden qui doit maintenant être titulaire, forcément tu dois avoir un milieu. Rice, c'est un autre qui fait partie de la liste des joueurs qui ont passé un palier supplémentaire cette saison. Pour moi, tu dois faire un milieu de terrain Rice, Bellingham, Foden, une attaque à trois. Saka, Kane, et puis après un troisième, il y a assez de talent dans cette équipe là. Et puis voilà, et puis tu vas tout pour l'attaque et tu vas remporter l'Euro, et puis voilà, enfin quoi, pour la première fois de ton histoire.
Bon, tu rejoins ce que dit Sonia sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, hein, l'équipe d'Angleterre va être une tuerie à l'Euro, seulement si le Sylvain Ripoll anglais ne fait pas n'importe quoi. Voilà, tu as fait des émules.
Merci, tout à fait.
Voilà, tu fais la promotion de
les gens savent, les vrais savent, hein, les vrais savent.
Ce qui est terrible, c'est que si l'Angleterre gagne, Julien dira malgré le Sylvain Ripoll anglais.
Ils oui, parce qu'en fait, c'est bien, on a continué. Non, mais ça commence à évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 20 ans que j'entends dire que les Anglais, c'est fabuleux. À chaque fois, ils se plantent. Et là, on commence à dire, peut-être que le sélectionneur, c'est pas ça. Alors voilà. Donc, peut-être que dans 20 ans, on commencera à dire que c'est une sélection moisie. Mais bon, c'est tout simplement. Et qu'on commencera
à établir un peu la vérité. On va venir gagner chez toi.
Voilà. Il y a que les Néerlandais qui ont le droit de faire des saloperies chez nous. Mais, mais non, mais moi, en plus, c'est vrai que j'ai eu bien raison. Mais je trouve extraordinaire que cette sélection... Mais moi, attends, ça fait quoi? C'est les années 80 que ça. Les gens, ils se rappellent 1982, le match Angleterre contre la France, 3-1, comme d'habitude, on se fait exploser. Ça n'a pas empêché la France d'être en demi-finale. Mais il y a toujours eu des belles équipes, pas forcément des grandes équipes, des belles équipes anglaises. Et ça a toujours foiré au bout d'un moment, etc.
Bien sûr.
Même dans les années 60, etc. Du bas 66, 70, tout ce que tu veux. Mais il y a... Il y a un truc extraordinaire là-dessus, parce que je sais pas si une équipe nationale s'est fait pour l'Angleterre, tout simplement, par rapport à son histoire. Pour moi, peut-être, l'Angleterre,
c'est dans la mentalité.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, c'est la mentalité. C'est ça. Et ça vient peut-être, d'ailleurs, Polo, très, très justement, de ce que tu viens de dire. C'est la mentalité. On va pas revenir en détail sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, mais dans le tunnel, les Français, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, qui me l'ont raconté, disaient qu'ils voyaient bien déjà dans les yeux, dans les regards des Anglais, qu'ils étaient battus avant même que le match ait commencé. On était dans le tunnel déjà, et je pense que cette mentalité-là aussi, elle vient du sélectionneur, mon Polo. Et je pense que Sylvain Ripoll anglais, même trêve de plaisanterie, il a pas ça en lui, mais c'est normal. C'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui a jamais gagné non plus dans sa carrière. Il a jamais gagné. C'est lui qui a raté un penalty contre l'Allemagne à l'Euro 96 à domicile. Donc voilà, il a aussi un petit peu, il a perdu une finale européenne aussi, donc c'est aussi lui qui dans un sens je trouve qu'il représente un petit peu cette
lose. C'est ça qui est extraordinaire.
Voilà, mais c'est vrai, mais c'est ça finale de l'Euro contre l'Italie, tu mets un 0 chez toi, jamais de la vie tu dois perdre. Ouais,
mais ce que dit Julien est très important, parce que moi j'ai toujours rigolé évidemment lorsque les Anglais se moquaient des Allemands les deux équipes se rencontrent, et le fameux 5-1 qu'a infligé l'Angleterre à l'Allemagne, où tu vois ça affiché partout. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, parce que c'est de la dérision, c'est parce qu'ils ont que ça à se mettre sous la dent, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce truc que tu vois partout, même dans des films où tu vois des photos où il y a le fameux 5-1 contre les Allemands, etc. Mais en fait, ça arrive une fois tous les 40, 50 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vécu comme si c'était historique au sens où c'est l'histoire. Non, c'est pas l'histoire, c'est un truc exceptionnel en fait.
Bon, vrai qu'on réagit beaucoup sur le chat. On nous dit ouais, j'ai pas compris pourquoi l'Angleterre nous dit Cruyffista avec les Lampard, Gerrard, Beckham à l'époque, Scholes. Rien du tout. Même la génération 96.
Mais parce que t'as lu trop de presse française, mon ami.
Et puis beaucoup nous disent également, les Anglais se voient trop beaux à chaque fois. Voilà. Bon,
ça va changer cet été.